Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Notre héros parcourt la Cantabrie en route pour Saint-Jacques à pied par le chemin du Nord. Il quitte Laredo. Le dieu du pipeline. Santander est une ville agréable même pour un pèlerin. Elle est à taille humaine avec ses ruelles en pente et ses monuments, mais suffisamment grande pour que l'anonymat y soit complet. On peut se fondre dans la foule sans se sentir un intrus. Dans mon rythme alterné entre camping et confort, il était de nouveau temps pour moi de me reposer dans une vraie chambre. Je trouvais une pension sur le guide et appelais, il y avait de la place et je m'y rendis. Ce que je prenais pour un hôtel était situé sur une grande place de la ville basse, non loin du port. Au numéro indiqué, je ne trouvais qu'un immeuble d'habitation. La pension était au 4e étage. Je sonnais. Une dame d'un certain âge, vêtue avec élégance et bien coiffée, m'ouvrit. Je crus à une erreur, mais c'était bien là. La propriétaire, c'était elle, avait réservé quelques-unes des chambres de son vaste appartement pour la location. Mis à part ces 3 ou 4 pièces occupées par des touristes, rien n'avait changé, ni les chromos accrochés au mur, ni le piano dans l'entrée, ni les napperons de dentelle sur les tables. Son salon, à gauche en entrant, était décoré, si le mot peut s'employer ici, d'un invraisemblable amoncellement de vitrines emplies de bibelots, de fauteuils tendus de velours, de devants de cheminées en tapisserie. Je traversais cette bonbonnière en prenant conscience de la rusticité de mon apparence. Mon hôtesse eut la bonté de ne pas s'en offusquer. Le surcroît de revenus que lui apportaient ses chambres de louage était payé de cet inconvénient. Faire pénétrer dans ce cocon des personnages malodorants et hirsutes. Elle avait l'air sûre de son fait et savait que cette épreuve tournait toujours à son avantage. La civilisation se montrait plus forte que ses sauvageries. Au bout d'une heure, le pèlerin ressortait de sa chambre, lavé, rasé et parfumé, ce que je fis. Santander, avec ses venelles commerçantes, ses bars à tapas, ses épiceries pleines de produits exotiques, pour un Français, me plut énormément. J'achetais pour remplacer celui qui était tombé en panne un petit appareil photo numérique Kodak, très bon marché. Je l'ai toujours et il fonctionne parfaitement, quoique entre-temps le célèbre fabricant ait fait faillite. Je me serais bien accordé une journée de repos dans cette ville sympathique, mais j'avais déjà traîné à Bilbao. Le chemin m'attendait. Je sentais en moi son appel irritant. Si j'avais finalement décidé de rester un jour de plus dans la ville, il m'aurait persécuté en faisant naître en moi remords et culpabilité. J'avais clairement conscience désormais qu'il faisait sa loi et qu'il était inutile de lui résister. Quand je rentrais à la pension, mon hôtesse prenait le thé dans son salon avec des amis. Elles eurent assez de charité pour ne prêter aucune attention aux zombies qui glissaient sur les tapis persans de l'entrée et rejoignaient le réduit qui lui avait été concédé pour la nuit. Au petit matin, je laissai le prix de la chambre sur le piano avec les clés de l'immeuble. Et je partis dans les rues que des employés municipaux lavaient à grand eau. Je ne voulais pas cacher, il fut extrêmement fastidieux pour moi de traverser la Cantabrie. J'éprouve le même ennui à ressusciter les souvenirs de cette partie du chemin. D'ailleurs, j'en ai peu. Ma mémoire, toujours bonne juge, s'est empressée d'oublier ces portions de côte monotones. Tout au plus me restent quelques souvenirs flottants, éparses, que j'ai du mal à situer dans le temps. Je me souviens assez précisément de la sortie de Santander à cause d'un sanctuaire appelé la Virgen del Mar. Je m'obstinais à demander aux passants la direction de cette Vierge de la mer, tandis que je traversais d'interminables banlieues sans charme. Mon objectif n'était pas seulement décalé dans l'espace. Au regard suspicieux des personnes que j'interrogeais, je comprenais que ce sanctuaire marial, jadis lieu d'antique dévotion, était aujourd'hui bien éloigné des préoccupations quotidiennes des habitants de la région. Ceux qui savaient encore où se trouvait la Virgen del Mar me recommandaient de m'y rendre en autobus. Pour justifier mon insistance à y aller à pied, je confiais aux passants que rien ne pouvait me paraître loin puisqu'il me restait 600 km à parcourir. La surprise laissait alors place à une expression de méfiance extrême, voire de dégoût, comme peuvent en susciter de grands aliénés en liberté. Dans certains endroits, et c'était le cas dans ces banlieues de Santander, le pèlerin avec ses références médiévales ressemble à ces chevaliers que des films comiques projettent dans le présent et qui déambulent en cotte de mailles au milieu des voitures. Passé la Virgen del Mar, tout se brouille dans mes souvenirs quant à Brick. Des épisodes surnagent, mais sans ordre. À vrai dire, les billes qui s'égrènent sur ce long chapelet côtier sont à mes yeux interchangeables. Je les évoque au gré de ma mémoire et il se peut que j'en intervertisse l'ordre. Les premières images qui me viennent quand je pense à cette partie du chemin sont celles des bords de route. Le Pays basque fait passer le pèlerin dans des sous-bois, des landes, au milieu des champs. La Cantabrie l'abreuve d'autoroutes, de carrefours, de voies de chemin de fer. C'est certainement très injuste, et en faisant le compte exact des kilomètres, il se peut que mon impression soit fausse. Reste que pour moi, la Cantabrie est le territoire de l'asphalte. Le piéton, faute d'itinéraire tracé à son intention, devient un sous-homme de la route. Les voies modernes sont construites pour le moteur et le pneu. La jambe et les semelles n'y sont pas les bienvenues. Le fait de suivre les voies routières donne l'impression que le tracé du chemin n'est pas conforme à l'histoire. La réalité est inverse et le guide ne manque jamais de le souligner. Le chemin cantabrique respecte très exactement l'itinéraire des pèlerins médiévaux. Le problème est que cet itinéraire est aujourd'hui couvert de routes. Le chemin que l'on suit est à la fois authentique et méconnaissable. Il ne laisse aucune place au rêve. Par endroits, ce serait même le cauchemar qu'il proposerait. Près de Mogro, le chemin longe ainsi d'énormes tuyaux de métal qui mènent à une usine chimique. Pendant des kilomètres, le pèlerin est accompagné de bus rectilignes, dans un décor de fin du monde. Des signes jacquaires sont peints tous les 300 mètres sur les tuyaux. Moins pour indiquer la direction à suivre, il n'y en a qu'une, que pour confirmer au marcheur qu'il n'est pas victime d'une hallucination. Et si l'on se lasse d'observer les sacro-saintes flèches jaunes de Compostelle, des prophéties tracées à la peinture blanche se chargent de loin en loin de réveiller l'attention. « Jésus sauve » est-il écrit en grosses lettres sur les tuyaux. L'invocation du Christ à cet endroit est plutôt de nature à ôter tout espoir aux pèlerins. La seule manière qu'aurait le Christ de le sauver serait de l'éloigner du déprimant voisinage de ces bus en fibrociment qui courent jusqu'à l'horizon. Pour achever de démoraliser le marcheur, ces tuyaux longent l'une des autres spécialités de la Cantabrie, les lotissements vides. Le boom immobilier espagnol s'est accompagné d'une frénésie de construction qui a particulièrement touché ces régions côtières. Le F4 avec garage y est décliné de 100 manières différentes. Des programmes ont été construits partout, chacun d'eux basé sur une interprétation bien particulière de la maison mitoyenne. Nombre de ces créations sont assez brillantes et font la preuve du talent des architectes espagnols. Malheureusement, ces conglomérats de petites bicoques ne constituent pas un urbanisme. Posées en rase campagne ou auprès de villages anciens, ces formations pavillonnaires détonnent. J'ai ainsi vu des collines au sommet desquelles étaient perchés depuis des siècles un joli petit village et qui désormais se prolongent sur leurs flancs par des lotissements modernes, plus étendus que la cité millénaire qu'ils entourent. Cette floraison de nouvelles constructions serait assez réjouissante si elle s'accompagnait d'une population. Malheureusement, l'immense majorité de ces alvéoles sont vides. Tout y a été prévu, sauf les habitants. Des pancartes à vendre fleurissent les balcons. Les volets sont fermés. Ça et là, une maison habitée avec ses jouets sur la pelouse et son linge aux fenêtres vient souligner le désert de l'ensemble. Lorsqu'on quitte enfin le pipeline, c'est pour arriver à une usine chimique. Pourtant, on se sentirait presque soulagé, au moins on retrouve des êtres humains. Des camions roulent, des cheminées lancent dans l'air une fumée âcre et que l'on imagine volontiers toxique. Ce n'est pas agréable, on pourrait rêver mieux, mais tout paraît préférable à la désolation de quartiers préparés pour la vie et habitée par le silence de la mort.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.